Vous écoutez RMC. RMC, Estelle Midi.
Le zapping RMC.
Les GG ce matin sur RMC, plainte en série contre Patrick Bruel, est-ce la fin de la carrière du chanteur? Au moins 12 plaintes ont été déposées contre Patrick Bruel, dont celle de Flavie Flament qui accuse le chanteur de l'avoir violé il y a 35 ans. Pour Joël Dagosséry, coach de vie des GG, la justice doit être plus ferme sur la question de l'âge du consentement sexuel.
Ben non, moi il n'y a pas de malaise. Enfin, je veux dire, viol ou pas, ça c'est à la justice de... J'espère qu'elle pourra... faire la vérité, mais on parle d'une fille qui a 16 ans avec un type qui a plus de 30 ans. Donc excusez-moi, moi j'ai une fille, elle a 16 ans. Donc va pas m'expliquer qu'une fille qui a 16 ans, où la relation a été consentie, le type il a 32 ans, bah non. Ça déjà c'est un scandale, le pouvoir d'emprise ou ce que tu veux, ou même d'influence, ou même d'admiration, ce que tu veux, il est là.
Tristan Bannon, est-ce que c'est la fin là aujourd'hui de la carrière de Patrick Bruel? Il y a 12 plaintes qui ont été déposées. L'avocate de Flavie Flament qui dit que de nouvelles plaintes vont encore l'être. Est-ce que c'est fini pour lui?
Alors ça, j'en sais rien du tout. Moi, depuis des années, je répète la même chose, c'est que je ne suis pas juge, que nous ne sommes pas des juges. Et cette affaire me donne encore plus la certitude qu'il ne faut pas l'être. Il se trouve que je connais l'un et je connais l'autre. Et,
de Patrick Bruel et
de Flavie Flament. Je ne connais pas toutes les autres femmes, évidemment, qui ont déposé plainte ou qui ont dénoncé des faits. Ce que je sais, c'est que la justice est quand même pas si mal faite que ça et que nous n'avons pas nécessairement les éléments pour juger et que je suis un peu mal à l'aise devant la feuilletonisation de ces affaires, que ce soit celle-ci ou d'autres, qui nous mettent face à l'injonction de prendre parti et de décider et de répondre à ce genre de questions, c'est-à-dire est-ce que c'est fini pour lui ou pas, qui je serais pour dire si c'est fini pour lui ou pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas ni si c'est fini pour lui ou pas, ni ce qui s'est passé, et j'espère que la justice fera son travail.
Mais après, vous parlez du feuilleton Patrick Bruel, mais vous avez été la première à dénoncer les comportements, par exemple, de DSK.
Ouais.
À l'époque, j'imagine que vous auriez aussi aimé être suivi par d'autres femmes et qu'il y ait un feuilleton, justement.
Alors, je vais vous dire, j'aurais aimé que d'autres femmes, si elles avaient eu des problèmes avec Dominique Strauss-Kahn d'ordre de violence sexuelle, qu'elles les dénoncent. En revanche, et je pense que de nombreux journalistes en sont témoins, quand on venait me voir en disant « je vous crois » ou « je ne vous crois pas », l'un comme l'autre me mettait tout aussi mal à l'aise.
D'accord.
Et je répondais systématiquement à ceux qui me disaient « je sais que vous dites la vérité », je disais « malheureusement, vous ne savez rien, vous n'étiez pas là ». Et je disais à ceux qui me disaient « je sais que vous mentez », vous n'en savez rien non plus. Et je pense qu'on gagnerait à prendre du recul, à laisser la justice travailler et à ne pas vouloir se substituer et au juge. Et il y a une espèce d'appétence malsaine pour ces affaires. Il est important de dénoncer ces faits et l'équilibre est compliqué à trouver. Je n'ai pas la réponse. Il y a un équilibre à trouver que je ne connais pas entre le fait qu'il faut dénoncer les faits, les violences sexuelles pour que les choses changent et qu'il ne faut pas non plus basculer dans le jugement en place publique et dans la feuilletonisation de ces affaires. J'ai pas l'équilibre, je le connais pas.
Après, on peut estimer qu'il y a effectivement une trentaine de témoignages et peut-être que ces femmes, ça les met mal à l'aise de savoir que leur agresseur présumé, parce que c'est présumé, il est au théâtre tous les soirs et qu'il va entamer une tournée triomphale. Cet été en France, on peut avoir aussi les deux points de vue, Juliette Briens.
Oui, bah parce que 30 accusations, 30 plaignantes, ça interpelle énormément.
12 plaintes et 30 témoignages.
Ouais, donc plaignante, je dis plaignante parce que je veux pas dire victime parce que sinon on abolit immédiatement la présomption d'innocence. Moi, je suis d'accord avec Tristan. On n'a pas la bonne solution et oui, ça met très mal à l'aise de commenter ce genre d'accusation parce que voilà, on n'était pas là et c'est vrai qu'il y a quand même, on est interpellé par l'accumulation des témoignages. Parmi les témoignages, il y a des choses que je trouve très grave et d'autres moins graves, c'est qu'il y a un peu de tout. Donc on est interpellé, mais en même temps
il y a des plaintes pour viol.
Voilà, c'est ce que je dis. Il y a des plaintes qui sont très graves et d'autres qui sont voilà peut-être qui donnent matière à interprétation. Et puis encore une fois, il y a toujours les 30 années qui s'écoulent et puis on découvre que pendant 30 années la relation entre la plaignante et l'accusé était normalisée, voire extrêmement amicale. Alors on se dit mais comment
ça,
c'est possible
rien, hein. On n'en sait rien. Et, et Flavie Flamand, elle dit j'avais pas le choix.
Moi, je vous dis ce que je ressens, parce qu'en fait, c'est qu'une question de ressenti. Sinon, en fait, le mieux, ce serait de ne pas en parler et de laisser la justice faire. Moi, j'ai rien d'autre à dire que j'en sais rien, en fait. J'étais pas là. Je suis interpellée. Voilà.
Et très mauvaise défense de son avocat.
Alors, la défense de l'avocat, voilà. Effectivement,
qui vient dans ses cas, vous dit, oui, un homme Patrick Bruel, il faisait jeune aussi.
Oui, c'est une très mauvaise défense. Ça, là, au moins, on peut le dire.
Oui, ça c'est sûr qu'il n'est pas hyper bien défendu. Benjamin Amar, on fait quoi avec Patrick Bruel?
Moi, j'ai quasiment pas une syllabe à retirer à ce qu'a dit Tristan Bannon. Moi, je pense qu'on devrait garder en tête que les gens sont jugés dans les tribunaux de la République. La justice en France, elle est très bien faite. Voilà, on peut lui faire confiance. Et tous ceux qui veulent se substituer à la justice de la République, la plupart du temps, ce qu'ils proposent, ça vaut pas tripette. Donc, en l'occurrence, moi, y compris ce qui a été décrit par Tristan, je m'y retrouve totalement.
Apolline Matin, ce matin sur RMC, faut-il faciliter l'installation de poulaillers géants? L'Assemblée nationale étudie à partir d'aujourd'hui le projet de loi d'urgence agricole. Le but, répondre à la demande croissante de la consommation d'œufs et de poulets en facilitant l'installation de fermes en France. Notre reporter RMC, Philippine Boulet, a justement rencontré un agriculteur qui a voulu se lancer dans la volaille. Écoutez.
Camille se lance en 2023 dans le projet de sa vie, construire une exploitation de 30 000 poules pondeuses dans la Vienne. 3 ans plus tard, seul un hangar est sorti de terre.
Ça a été laborieux, ça se concrétise encore.
Le parcours du combattant, selon lui, il a passé 2 ans à faire uniquement de l'administratif.
On a 3 ou 4 fois les mêmes informations, qu'on en était même à douter de la faisabilité du projet dû au retard.
À ces contraintes s'ajoute la recherche de financement. Alors pour faciliter l'installation des éleveurs, le projet de loi prévoit de revoir à la hausse le seuil à partir duquel certaines normes environnementales s'appliquent, de 40 000 à 60 000 poules. Une très mauvaise idée selon Stéphane Boissavi de l'association Wellfarm, opposée à ces structures. Pour lui, elles sont un danger pour l'environnement.
Il y a régulièrement des incidents qui peuvent entraîner de la pollution, de l'air, des sols, des rivières. Bon, les effluents animaux, etc. entraînent une pollution. Une cuve à lisier, par exemple, qui a une fuite et puis ça se déverse dans les rivières.
Selon les défenseurs du projet de loi, la création de poulaillers géants permet de répondre à la demande croissante en poulets et en œufs.
Juliette Briens, est-ce qu'il faut faciliter l'installation de fermes géantes ou les limiter au maximum?
Ben non, oui, il faut. Ah bon. Je comprends pas en fait. On n'arrête pas de nous bassiner à longueur de temps et à raison pour qu'on mange français, qu'on arrête de se gaver de poulet aux hormones ukrainiens. Et donc là, on essaie de trouver une solution, à savoir industrialiser en masse le poulet franco-français. Donc,
oui.
Et c'est encore pas bon parce que je ne sais
pas. C'est pas un petit producteur.
Mais vous pensez, mais il y a beaucoup de bouches à nourrir. Vous savez combien de tonnes de poulet on consomme par an?
Oui.
Ben non, mais il faut savoir ce qu'on veut, quoi.
Ben on peut peut-être privilégier les petites fermes.
Mais il n'y en aura pas assez pour tout le monde, Estelle. Oui. Il n'y a pas assez de poulet pour tout le monde. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On se rabat sur le poulet européen ou le poulet de l'autre bout du monde. Donc, il faut choisir. Parce qu'en fait, vous n'êtes jamais content. C'est ça le truc.
Enfin, si vous habitiez juste en face, vous n'auriez pas le même raisonnement.
Bah oui. Déjà, quand on vit à la campagne, on s'attend à avoir des poules.
Bah, c'est pas des poules, elles sont 10 000 en général. Ça fait un peu de bruit.
Non, on les voit pas en l'occurrence. Elles voient pas la lumière.
Il y a pas juste un coq qui travaille à 5 heures.
Moi, je pense que franchement, vous n'êtes jamais content, quoi. Quand on apporte une solution saine et pragmatique à un problème qui préoccupe tout le monde, vous allez encore trouver le moyen de le démonter en disant oui, mais le bruit, oui, mais les odeurs, oui, mais ça rejette je ne sais quoi dans l'eau. Alors laissez-nous bouffer notre poulet ukrainien. Enfin, je sais pas.
Juliette a raison. Aujourd'hui, on a mis des normes en France les plus fortes du monde, bon, en tout cas d'Europe, où c'est 30 000 maximum, là où nos voisins peuvent aller à 50, 70 000 dans leur ferme usine. Bah oui, mais le résultat.
Entre 30 et 50.
Bah oui, mais
ton poulet ne voit pas le jour de toutes les manières. Hein.
C'est tout le débat. Aujourd'hui, c'est ça qu'elle autorise cette loi, c'est d'aller au-delà d'un certain seuil qui est pourtant autorisé dans le reste de l'Europe. On peut pas être le bon élève tant qu'on n'impose pas les mêmes normes à nos voisins européens. On peut pas continuer à jouer le bon élève et en même temps à dire on veut du poulet français, on veut des poules françaises. Ouais, c'est pas possible.
Moi, j'aimerais que sur mon poulet, il y ait marqué poulet de ferme géante ou poulet de petit producteur. J'ai envie de savoir. Bah oui, mais
déjà le poulet. Cher, elle payait 2 fois plus cher.
Voilà, j'ai envie de savoir si mon poulet, il a vu le jour une fois dans sa vie.
En fonction du prix, ça vous donne une indication normalement. T'as des poissons, t'as le poisson d'élevage ou le poisson sauvage, tu le sais à chaque fois.
Tu regardes sur tes étiquettes, sur les œufs ou sur le poulet, t'as les labels.
Zéro ou un FR, pas plus.
Oui. Bah voilà, mais
de 2FR, ça, ça
donc la question quand il est à 40 balles, c'est qu'il a,
voilà, oui, il a le prix jour. et t'as l'étiquette et
c'est
t'as le label.
Exactement.
Il a donc ça existe déjà. Il y a des labels qui permettent d'identifier le quel poulet ou de quels œufs on parle. Donc en l'occurrence, oui, c'est effectivement des structures qui vont permettre pour le coup de la viande ou des œufs de à des prix plutôt modiques. Ça pose des problèmes de conflits d'usage avec le voisinage, etc. Mais soyons clairs, si on veut permettre à l'agriculture française de faire face à la rivalité européenne et extra-européenne, il va falloir lui donner quelques outils.
Ok, vous m'avez convaincu. Bravo à tous les deux. Bon. Le Morning RMC, ce matin sur RMC. Des cours d'éducation financière à l'école, bonne ou mauvaise idée? Dès la rentrée 2026, une formation d'économie sera généralisée à toutes les classes en quatrième. Objectif, acquérir des compétences financières pour éviter l'endettement ou les arnaques. Écoutez Marc Mazière, il est fondateur du blog Radin Malin.
Déjà, le fait de savoir gérer un compte et le fait de se responsabiliser par rapport à l'argent, et aussi le fait d'anticiper les arnaques, parce que pour les ados, c'est quand même des cibles qui sont assez faciles pour tout ce qui est trading, crypto, vous savez, des arnaques en ligne, assez classiques. Je pense qu'il faut faire beaucoup attention aux réseaux sociaux et à toutes les promesses qu'il peut y avoir dessus.
Tristan Bannon, bonne ou mauvaise idée cette éducation, ces cours d'éducation financière à l'école?
J'ai souvent reproché aux cours à l'école de ne pas préparer à la vie. Donc, je ne vais pas dire que c'est une mauvaise idée. Je pense que normalement, on doit sortir de l'école en étant armé pour affronter la vie et le monde quotidien. Et ça ne peut qu'aider, effectivement, quand on voit parfois des jeunes qui sont incapables d'affronter des situations où ils devraient avoir appris à gérer les finances. Et d'autant plus dans un monde où, effectivement, le monsieur parlait de crypto-monnaie. Effectivement, ça devient de plus en plus complexe, je pense que ça ne peut être que bon et bénéfique.
Benjamin Hamard, vous qui êtes prof, justement, vous voyez ça d'un bon œil?
Mais oui, moi je vois ça, enfin, au vu de ce qui nous est présenté là, moi je vois ça plutôt d'un bon œil. Vous savez, le surendettement frappe très fort les classes populaires. Et moi je vois à travers mes élèves, par exemple quand on est en voyage scolaire et que les parents leur donnent de l'argent, je vois que ce sont des paniers percés qui achètent à peu près tout et n'importe quoi.
Mais est-ce qu'on n'a pas fait pareil?
Oui, bah sans doute, mais ça fait partie,
vous savez, moi
en l'occurrence, on m'avait pas donné mes parents m'ont donné plein de choses, m'ont transmis plein de trucs, mais pas sur les aspects budgétaires.
Et j'ai dû faire moi-même. On voit où vous êtes maintenant. Sinon, vous seriez capitaliste.
Mais oui, mais c'est ça. Alors,
mais oui.
Dieu, Marx m'en préserve. Mais là, en l'occurrence, je pense que c'est une bonne chose. Parce que, y compris, par exemple, sur les arnaques. Moi, j'ai des élèves qui se font très souvent arnaquer, y compris par les influenceurs, etc. Combien de fois j'ai vu des élèves.
Mais est-ce que c'est trois cours en quatrième qui vont empêcher les.
Pour tout. C'est pour comme l'esprit critique, comme la compréhension de texte. Plus on s'y prend tôt, et mieux c'est. Donc, moi, je trouve ça plutôt pas mal.
Juliette Briens.
Non, mais pourquoi pas? Mais ça vient remplacer quelles heures de cours? Moi, vous me dites, on met ça à la place de l'art plastique, je suis tout à fait d'accord.
Bonjour, les collègues.
Non, mais voilà, on a toujours
à
des trucs.
À la place de la flûte.
Si, voilà, oui. Un jour, c'est les cours de cuisine, un jour, c'est l'éducation sexuelle, et un jour, c'est les cours de finance. Très bien, mais en fait, d'abord, il y a maths, histoire et français. Une fois qu'on a récupéré ça, et que. Non, mais je le dis parce que c'est quand même important, c'est pas acquis aujourd'hui. Après, dans un monde parfait où c'est acquis, pourquoi pas? Mais même ça peut être en option, tu vois. On n'est pas tous obligés de choisir le cours de flûte, quoi. Franchement.
Mais peut-être qu'on peut aussi changer les cours d'économie plutôt que de nous parler d'économie de manière abstraite. Peut-être qu'on peut
de Marx.
C'est vrai que j'avais le
crypto-marxiste de prof de SES. Mais...
Alors on voit de Marx un peu plus de Bernard.
Voilà. Un peu de Keynes. Bon, voilà, un peu de Keynes, un peu de Freeman.
Voilà. Estelle Denis, inspecteur de l'éducation nationale.
Et puis, bon bah Marx, voilà, ça fait longtemps. On peut peut-être s'en passer. Et
justement. Mais quelle horreur! Il a pas sorti d'album. Oui, voilà.
Bon, est-ce que c'est encore utile? Je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'un cours sur le Bitcoin serait peut-être Benjamin.
Mais non. Écoutez, là c'est pas pareil. Là, je pense que moi, ce que disait.
Là, c'est grève des profs. Hein,
si ouais. Non. Un cours sur le Bitcoin, je ne crois pas qu'au collège ce soit indispensable.
Bah, c'est dommage.
Mais par contre, au lycée, ces choses-là sont abordées par les collègues. Vous savez, les élèves sont très curieux. curieux. Ils vous, pour moi, des profs d'histoire géo,
si c'est un collègue,
les élèves me demandent ce que c'est que le Bitcoin.
Je vois bien comment ça va être.
C'est quoi un collège d'extrême gauche?
Si c'est un collègue d'extrême gauche, si c'est lui qui vient de parler du Bitcoin, bon, bah, je sais pas si je vais être très sensible à son argumentaire. Pardon, Benjamin. Bah oui, il faut quand même qu'il y ait une petite sensibilité à l'argent.
Dans l'éducation nationale, les profs d'histoire et les profs de SES ont toujours été suspects de crypto-marxisme, de faire des cours orientés. Moi, je dis toujours une chose. J'apprends à mes élèves à penser, pas à penser comme moi. Oui. À penser. Oui,
d'accord. Voilà.
C'est ça qu'on est. D'accord. Moi, j'ai de l'honnêteté intellectuelle et je suis pas le seul.
Oui, mais d'accord. Mais quand on parle d'argent, oui, il y a quand même une sensibilité.
Là, c'est la pierre philosophale.
C'est pas pareil. Oui. Ah, oui. Bon, on enseigne la guerre.
De flouze,
voilà. On fait ça bien. Vous voyez, bon. Mais l'argent, c'est autre chose.
Autant Marignan 1515, bon, allez, toutes vos farimoles, pourquoi pas. Mais là, les crypto-monnaies, c'est important et c'est sérieux. Ça n'a rien à voir avec vos trucs de guerre.
En psycho, on dit, quand on parle de soi, on parle toujours. Quand on parle des autres, on parle toujours un peu de soi.
Oui.
Je crois que c'est ce que vous venez de faire.
Vous mettez un peu de vous dans Marignan 1515. Ok, très bien, Benjamin.
Mais moi, j'aurais adoré avoir ces cours. Moi, j'aime bien en argent, en finance. Je peux vous dire que Estelle me coach régulièrement. Je fais des cours de rattrapage 20 ans plus tard.
On part de très loin, quand même.
Grosse lacune.
Grosse lacune.
20 ans de marxisme derrière moi.
C'est malheureux, Charles. Et voilà où on en est aujourd'hui. Bon. Le bonus RMC ce matin. Combien pourriez-vous dépenser dans une vente aux enchères? Le 3 juin prochain se tiendra à Neuilly-sur-Seine une vente unique en Europe. 50 pièces ayant appartenu à Michael Jackson. Les précisions de Mathieu Béliard.
Mocassin noir entre 6 et 9 000 euros. Veste ou gants à paillettes. Le pantalon Billie Jean, vous savez, avec le trait blanc sur le côté à 8 000 euros. Ah. C'est la collection d'un passionné qui, à la base, voulait ouvrir un musée, qui finalement s'est dit il y a peut-être un petit billet à faire. Finalement, la vente, la collection totale est estimée entre 500 000 et 1 million d'euros. Des vestiges, des accessoires, des tournées de Bad, Dangerous, History, qui devraient trouver preneur. La preuve, l'été dernier, il y avait déjà une vente aux enchères. Une simple chaussette sale portée par Michael Jackson a été vendue à Nîmes. Elle avait été portée pendant un concert quand même, hein, cette chaussette sale, 6200 euros.
Tristan Bannon, vous pourriez mettre un peu d'argent dans une vente aux enchères Michael Jackson?
Le gant là, c'est un peu... Ouais, le gant à paillettes, c'est un peu toute mon adolescence quand même. Ouais.
D'accord.
Mais je pense que ça n'est pas dans mes moyens, soyons très clairs.
Je pense que c'est très cher. Charles Magnin?
Bah, j'aimerais, mais Estelle m'engueulerait en me disant « Tu vas pas dépenser ton argent dans une vente aux enchères Michael Jackson ?»
Bah si, ça peut se revendre.
Achète des bitcoins à la place. je pourrais, ouais.
Ah ouais,
ouais. Ouais, bah.
Et vous achèteriez quoi?
Bah, le gant aussi.
Non, j'ai déjà acheté. Non, j'ai déjà acheté.
Les chaussettes à paillettes, là. La chaussette sale de Nîmes, là. Pas d'accord, mais les chaussettes à paillettes, là. Les chaussettes du Moonwalk, ouais.
Ah oui, d'accord. Hein? Je vais être brillante, ça.
Non, mais déjà, parce que je suis absolument pas. C'est pas du tout moi, en fait. Acheter des objets de star, tout ça, j'ai pas la fibre de la fangirl. Et puis de deux. Je ne peux pas nier que Michael Jackson avait un talent absolument hors norme, mais pour moi, ça reste et ça restera un violeur d'enfant, en fait. J'en suis persuadée au fond de moi. Et je trouve ça incroyable, en fait, qu'aujourd'hui, plus personne ne parle de cet aspect de sa vie, quoi. Le fait qu'il dormait avec des enfants de 7 ans, et puis il y touchait un petit peu, quoi, quand même.
Il
a remporté, voilà, c'est compliqué.
D'accord. Pour moi, vous voyez, c'est une histoire d'interprétation et de ressenti. Bah voilà, pour moi, pour Michael Jackson, en tout cas, mon ressenti, il est fait. Et donc,
c'est pareil, l'homme de l'artiste, quoi.
Ouais. Je pense qu'il faut. Bah, j'ai sûr que je vais pas me boucher les oreilles à chaque fois que Billie Jean arrive.
C'est
ça,
vous demander.
Mais non, mais j'ai jamais été comme ça. Je suis pas du tout dans la cancel culture. La chanson, elle existe. Elle est géniale. Je peux rien y faire, en fait. Il y a énormément d'artistes, d'écrivains et de toute trempe qui étaient pas des bonnes personnes. Tu vois. Ça n'en rien. L'œuvre est incroyable. Elle est incroyable. Tu peux pas prétendre aujourd'hui oublier Billie Jean, oublier Bad ou Thriller. C'est impossible. Elle fait partie de ta vie, la chanson. Donc. Voilà. Enfin, mais de là, aller acheter des reliques de Michael Jackson, non, en fait. Voilà, c'est tout.
Benjamin Hamard.
Ouais, moi je suis pas hormis la guitare de Brassens et la chemise de Ferré.
C'est moins cher. Ouais. La chemise de Ferré, je pense que pour 250 euros.
Je suis même pas sûr, mais
elle est sur Vinted d'ailleurs.
Non mais voilà, je veux dire, moi j'ai pas du tout la culture du groupie. J'aime beaucoup Michael Jackson, c'est toute mon adolescence, mais vraiment. Mais je suis pas dans la culture du groupie, c'est vraiment pas dans mon ADN. C'est comme le Bitcoin, c'est pareil.
Ok, je ne vois pas le rapport, mais très bien.